Tu lis quoi, toi? Vous lisez quoi, vous? Nous lisons quoi, nous?
Rondo était une ville unique. L'air y était clair, comme si le plus fin des fils de lumière l'avait tissé. Ses habitants, doux et un peu étranges, faisaient partout pousser des fleurs, des parcs et des jardins. Ils parlaient aux oiseaux et aux plantes. Ils chantaient, dessinaient et écrivaient des poèmes. Tous aimaient tellement vivre à Rondo. Plus que quiconque, Danko, Fabian et Zirka adoraient leur ville. Ici, tout le monde connaissait ses trois inséparables amis. Danko avait un corps fin et transparent qui scintillait comme une ampoule. Son cœur brillait très fort. Il parcourait les rues sur son vélo en fredonnant les musiques de ses films préférés. Et dans le panier fixé à son guidon, Danko transportait souvent une épaisse encyclopédie remplie de gravures de plantes, de fleurs et d'arbres. Fabian, lui, descendait d'une grande famille de chasseurs de trésors. Il avait un bon flair et une vue perçante. Il était si léger que le moindre souffle de vent pouvait le soulever et l'emporter au loin. Aussi portait-il à son cou une médaille en argent, gravée de la lettre F. Elle était si lourde que jamais Fabian ne s'était envolé de Rondo. Zirka, quant à elle, savait voler haut dans le ciel. Elle effectuait même des acrobaties complexes. On entendait souvent bruisser dans les airs ses ailes de papier. Au fil du temps, elle les avait recouvertes de notes et de croquis racontant ses voyages. Ce qu'elle aimait par-dessus tout, c'était découvrir le monde. Rondo était célèbre pour ses fleurs extraordinaires, et l'immense serre située sur la place centrale faisait la fierté de ses habitants. Elle abritait une collection de fleurs et de plantes rares provenant des quatre coins de la planète. Mais plus étonnant encore, ces fleurs avaient le pouvoir de chanter. Des concerts avaient souvent lieu dans la serre musicale. De partout, les spectateurs se pressaient alors pour profiter de l'incroyable spectacle. De plus, chaque matin, les fleurs chantaient la chanson de la ville en levant peu à peu la tête vers le soleil. Danko était souvent dans la serre dès l'aube, car il aimait commencer sa journée en chantant avec les fleurs. Il avait longuement étudié chaque espèce dans son encyclopédie et il savait combien d'eau et de lumière il fallait à chacune d'entre elles pour sublimer son parfum et parfaire son chant. Son petit déjeuner terminé, Danko aimait retrouver Fabian dans un café du coin. Après avoir discuté des dernières nouvelles de Rondo, ils allaient rendre visite à leur amie Zirka, sans jamais vraiment savoir si elle était chez elle. Ce jour-là avait débuté comme une journée bien ordinaire dans les rues de Rondo. Comme à l'accoutumée, les habitants s'étaient pressés pour rejoindre leurs activités, et Danko, de retour de la serre, s'apprêtait à retrouver ses amis. Zirka venait de rentrer de voyage, les ailes couvertes de nouvelles histoires. Le corps de Danko et le soleil brillaient fort. Les fleurs et les oiseaux chantaient. Tout se passait comme d'habitude, lorsque soudain, un terrible silence s'empara de la ville. Puis des mots apeurés se répandirent de bouche à oreille. Aux portes de la ville, c'est la guerre. Étrange façon de commencer l'émission.
C'est vrai.
Bonjour Véro.
Bonjour Monsieur Simon.
Bonjour Philippe, qui est là à la technique. Vous écoutez l'émission On lit quoi nous, la 41e du nom. Et nous sommes vraiment ravis de vous accueillir dans cette émission, où nous allons parler de choses qui font du bien également, je vous rassure. Le livre que je vous ai lu, le début de livre que je vous ai lu, s'appelle La guerre qui a changé Rondo. C'est un livre écrit par Romana Romanichine et Andrei Lessif. C'est publié chez Rue du Monde. Ce livre, il date de 2015 et les deux auteurs sont ukrainiens. Et en 2015, ils racontent l'invasion de leur ville Rondo par des troupes ennemies. Cet album, en fait, que Rue du Monde a évidemment remis en avant, c'est vraiment un livre poignant qui permet d'imaginer en fait à la fois l'horreur de la guerre à portée d'enfant. Ces trois personnages qu'on va suivre, qui sont représentés par des animaux, en fait, sont vraiment On imagine que ça pourrait être des enfants. Et voilà, comme l'actualité n'est pas très très belle, on voulait ouvrir avec cet album pour rendre hommage à ces deux auteurs. Ces deux auteurs qui ont donné des informations en fait à Rue du Monde. Voilà, on peut voir sur le réseau social en fait, ils ont quitté la ville dont ils viennent, Lviv, et voilà, ils racontent un peu la guerre. Donc si vous voulez les suivre, suivez le compte de Rue du Monde.
Mais Rondo, ça existe vraiment?
Alors, je n'ai pas vérifié, mais je ne crois pas. Je crois que c'est une ville imaginaire.
D'accord, on est dans l'imaginaire, quoi.
Un peu beaucoup de villes en Ukraine, donc voilà. Donc, si vous cherchez un livre à partager autour de la guerre, je vous conseille vraiment ce livre-là, écrit en plus par deux Ukrainiens. On va parler de choses un peu plus gaies, quand même, dans cette émission, n'est-ce pas?
Oui, oui, oui.
On va faire ça, on va présenter plein de beaux livres.
Beaucoup de poésie.
Beaucoup de poésie, beaucoup de livres... Quelques
forts.
Livres drôles, des livres forts, des livres étonnants, un livre très très fort, un livre très dur aussi.
Oui, oh bah oui, allez, on s'est dit.
Voilà, une BD très mignonne, et puis toujours un petit peu de musique. Et aujourd'hui, nous avons convié pour cette émission les Frères Casquettes. Écoutons ça.
Comment ils tiennent debout de l'autre côté de la terre? Ça fait mal à la tête d'être toujours à l'envers. Pourquoi chez nous c'est l'hiver quand ailleurs c'est l'été? Est-ce que dans l'univers y'a des planètes habitées?
Pourquoi des frontières? On habite la même terre. Pourquoi le voisin n'aime pas Abdelkader? Pourquoi il dit qu'ici ce n'est pas chez lui? Il vit au troisième, il n'a rien compris.
Pourquoi? Je ne sais pas. Comment? Je ne connais pas. Et bientôt c'est sûr, je saurai tout. Pourquoi? Comment? Qui? Quand? Où?
Pourquoi? Comment? Ça je ne sais.
Je ne sais pas
qui quand comment où je deviens fou.
Je deviens fou.
Pourquoi comment ça je ne sais pas.
Je ne sais pas
qui quand comment où je deviens fou.
Je deviens fou.
Pourquoi le Père Noël a les chaussures de notre père? Sa pose barre, je l'ai vu dans le fond du placard. Mais comment lui dire sans lui briser le cœur? Alors on fait mine de continuer d'y croire.
Pourquoi on meurt un jour? Moi je veux vivre toujours. Pourquoi même le lundi les gens se disent bonjour? Pourquoi maman bégaye quand elle fait la fête? Pourquoi les choses sourient alors que papy fait la tête?
Pourquoi? Je ne sais pas. Comment? Je ne connais pas.
Et bientôt c'est sûr je saurai tout. Pourquoi? Comment? Qui? Quand? Où?
Pourquoi? Comment? Ça je ne sais.
Je ne sais pas
qui quand comment où je deviens fou.
Je deviens fou.
Pourquoi comment ça je ne sais pas.
Je ne sais pas
qui quand comment où je deviens fou.
Je deviens fou.
Pourquoi ils disent qu'on manque d'eau, y en a plein dans la mer. Et pour avoir la paix, pourquoi ils font la guerre? Pourquoi ils vendent de l'essence, on sait que ça pollue? Pourquoi à l'adolescence on l'allemand ton poilu?
Pourquoi faut se coucher, j'ai pas envie de dormir? Pourquoi faut se lever, j'ai pas envie de sortir de ma couette, de mon lit, de ma chambre, de chez moi? Pourquoi les parents ne me comprennent pas?
Pourquoi? Je ne sais pas. Comment? Je ne connais pas. Et bientôt c'est sûr, je saurai tout. Pourquoi? Comment? Qui? Quand? Où?
Pourquoi? Comment? Ça je ne sais pas.
Je ne sais pas
qui quand comment où je deviens fou.
Je deviens fou.
Pourquoi? Comment? Ça je ne sais.
Je ne sais pas
qui quand comment où je deviens fou.
Je deviens fou.
C'était donc le titre « Pourquoi, comment ?» des Frères Casquettes dans l'album « Le monde à l'envers ». Alors les Frères Casquettes, ce sont quatre jeunes garçons qui nous
dans
viennent d'Angers. Qui étaient tous dans un groupe précédent de hip-hop qui s'appelait Nouvelle Air, qui était un groupe plutôt pour les adultes. Et puis ils ont eu cette idée assez géniale de créer cette formation qui était plutôt avec des textes destinés plus pour les enfants. Donc on retrouve Max et Sam Casquette, deux frères, cousin Bob et Gigi Casque. Donc ça, c'est leur, leur pseudo pour le show des frères Casquette. Et donc ils se sont inspirés du rap qu'ils aiment, donc c'est-à-dire le hip-hop des années 90, ouais. Celui du Wu-Tang Clan, celui de NTM, celui d'IAM, pour proposer aux enfants une version, une vraie version du hip-hop, hein, pas du faux hip-hop, un peu je rappe un petit peu pour faire yo comme ça, mais des vrais morceaux avec des vrais instrus, avec, ouais. Avec deux vrais MC, et ça fonctionne vraiment bien. Donc ils ont fait trois albums jusqu'à aujourd'hui, donc l'année scolaire qui était sortie en 2012, Le Monde à l'envers, dont on a écouté le morceau Pourquoi Comment, et puis le dernier, c'est La Vie Devant Nous, publié en 2018.
Quel beau titre.
Voilà, n'est-ce pas, hein, je pense hommage peut-être un petit peu à Romain Gary. En tout cas, c'est un groupe qui marche bien, qui tourne beaucoup, qui a fait beaucoup de dates ces dernières années, puisqu'effectivement, ils sont un petit peu les seuls sur ce créneau-là. Donc on s'écoutera d'autres morceaux pendant l'émission, mais je voulais vous présenter ce groupe. Allez, on va commencer avec l'actualité de la jeunesse. Voilà. La grande actualité, toujours pas de slogan, hein, désolé.
Non, mais bon, je pense qu'on va
le garder, celui-là, on va le garder. La grande actualité en littérature de jeunesse, c'est évidemment le grand succès, la reconnaissance.
On n'arrête pas. Hein.
Ah bah non, ça c'est clair. De Marie-Aude Muraille, savez-vous, ma chère Véro ? Mais oui, vous le savez, je vois à vos yeux qui pétillent, qu'elle vient de recevoir le prestigieux prix Hans Christian Andersen en 2022. Eh oui. Vous savez que le prix Astrid Lindgren et le prix...
J'avais mélangé, moi.
Et le prix Andersen, en fait, ils se remettent une année sur deux.
D'accord.
Alors,
ne
me demandez pas pourquoi.
Mais...
c'est en Suède, hein, c'est à peu près comme des prix Nobel,
ouais.
Et ils font une année sur deux.
D'accord.
Voilà, j'ai jamais compris exactement.
C'est un prix prestigieux, comme celui d'Astrid Lindgren.
C'est deux prix prestigieux. Ouais. Et on avait vu que Jean-Claude Bourleva avait gagné donc, le prix Astrid Lindgren. Et donc cette année, pour le prix Andersen,
Marie-Aude
Muraille. Décidément, les auteurs français sont à la mode.
Mais c'est justifié, moi, je trouve.
C'est complètement justifié, parce qu'effectivement, Marie-Aude Muraille, elle est à la tête d'une œuvre...
Incroyable.
Effectivement, plus de 90 livres... presque une centaine de livres pour enfants et jeunes publics depuis 30 ans de carrière. On a vraiment... Et puis, elle est engagée pour la cause des enfants, de la lecture, quasiment toute son œuvre. Voilà. Ouais. Il y a quelque chose quand on l'entend parler par rapport à ça. Et puis, ce côté, cet humour qui est toujours présent dans son œuvre, cette façon d'aborder des thèmes qui sont souvent difficiles, mais par le biais de l'humour, c'est vraiment ce qui fait sa caractéristique. Et puis, elle a quand même ouvert... pas mal de portes sur des thématiques qui n'étaient pas abordées pour la littérature de jeunesse. Je pense à
Oh Boy,
textes comme ça qui sont absolument, absolument géniaux. Bah écoutez, j'ai retrouvé une petite archive. C'est lors d'une conférence qu'elle a faite à la BNF il y a quelques années où elle parle justement de la différence entre la littérature jeunesse et la littérature adulte. Et c'est vraiment intéressant.
J'ai trouvé cette citation qui va bien vous expliquer la différence entre l'écriture pour les adultes et l'écriture pour la jeunesse. Le problème des auteurs traditionnels est qu'ils présupposent que leur lecteur est immortel. Aussi garde-t-il l'intensité pour la fin. Je suis convaincue que mon lecteur est mortel. S'il achète mon livre et qu'il meurt à la page 5, j'aimerais que mon livre lui ait quand même procuré quelque chose. Je ne pense pas que mon lecteur de 10 ans va canner à la page 5, mais je pense qu'il va me planter. Parce que je vais peut-être l'ennuyer. Je ne vais peut-être pas l'avoir accroché, je ne vais pas avoir su l'emmener. Donc j'ai un lecteur essentiellement volatile, pas forcément mortel, mais un lecteur qui est zappeur. Un lecteur, les maîtresses vous le diront, qui manque de concentration. Et puis quand c'est un lecteur adolescent, bah, vous savez que ce sont des gens très occupés. Donc il faut véritablement que je les empoigne. Et l'intensité, c'est tout le temps. Voilà, c'est à toutes les pages.
Et oui,
et ça, bel extrait, hein.
Bel extrait, n'est-ce
magnifique.
Pas et c'est marrant parce que ça rejoint exactement ce dont on parlait lors de la dernière émission avec Tom et Nathan Lévesque, la littérature ado comme étant la littérature de l'intensité, et c'est exactement ça.
Tout à fait, ouais.
Et Marie-Aude Muraille,
mais cette femme est particulière. Enfin, c'est incroyable. À chaque fois qu'elle ouvre la bouche ou qu'elle dit une phrase, elle est forte, elle est essentielle. Je ne sais pas comment elle fait là. C'est voilà, chaque mot.
C'est
un point incroyable.
Talentueux, peut-être.
Oui, ça doit être ça.
Ça doit être ça. Ça doit être quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, on est vraiment fière. Hein,
Oui.
Enfin, nous, on n'a rien fait.
Et mais, puis, un petit clin d'œil à Miss Charity, que j'avais une grosse flemme de lire, j'avoue. Le gros roman, quand même, oui, gros pavé.
Magnifique.
Et j'ai découvert la bande dessinée. Et je suis complètement séduite.
Donc, un petit clin d'œil donc, à Loïc Clément et Anne Montel qui avaient
qui
fait
ont
cette adaptation.
Adapté chez Rue de Sèvres. Miss Charity.
D'ailleurs, le tome 2 est en cours et donc, il devrait bientôt arriver. Allez, on va présenter maintenant un petit peu des livres et puis on va remonter les âges comme on fait habituellement. On va commencer avec les plus jeunes. Et pour les plus jeunes, moi j'avais envie de faire un focus sur une autrice que j'aime particulièrement et qui sort deux nouveautés presque dans le même mois. Cette autrice, c'est Ella Charbon. Et Ella Charbon, elle est en train de faire une petite œuvre qui s'enrichit d'album en album. Donc la plupart de son travail se passe à l'école des loisirs, dans la collection Loulou et compagnie. Et justement, elle sort avec le grand scénariste Michael Escoffier un nouvel album qui s'appelle « Y a quelqu'un ». Alors ce petit album, il est très ludique, il est très joueur. On retrouve l'univers de Michael Escoffier. Et c'est vrai qu'on a l'habitude qu'il travaille avec Mathieu Maudet. Donc il y a cette habitude de ce couple en fait, qu'on a envie de retrouver. Mais là, Charbon apporte vraiment son univers et qui colle très très bien aussi avec celui de Michael Escoffier. Et en gros, va suivre ces trois petits couchons qui trouvent un ballon. Et puis, ils s'aperçoivent qu'il y a quelqu'un en face. Voilà, il y a le petit lecteur.
Ah oui, d'accord. Ouais.
Et donc, quand il le voit, il l'interpelle. Hey, mais il y a quelqu'un. Hop, on dirait un enfant.
Quelle bonne idée.
Mais qu'est-ce que tu racontes? Fais voir. Hop, voilà. Et puis, donc, il va l'interpeller. C'est il va lui demander son prénom. Il veut demander s'il veut jouer. Après, évidemment, ils font des petites bêtises. Donc, tu sais toucher ton nez avec ta langue.
Oh, il louche.
Tu sais faire des grimaces. Voilà. Tu sais siffler. Alors, je l'ai testé en lecture, hein, les enfants adorent. Ils répondent vraiment très, très. Avec beaucoup de plaisir.
De plaisir, ouais.
Et sauf qu'à un moment donné, dans l'histoire, évidemment, le loup arrive. Ah, petit cochon comme ça.
On ne peut forcément jamais être tranquille. Bah, non.
Donc, il nous conseille quand même de partir. Ne reste pas là, il va te manger. Hop, eux, ils se barrent en courant.
Ah, ouais, non,
et puis, le loup arrive, sauf qu'il a senti. Il a senti quelque chose.
Les enfants.
Ah, les petits lecteurs.
Ah ouais, il aime bien aussi. Hein.
Voilà. Heureusement, les petits cochons sont dans les parages. Ils ont toujours le ballon. Ils vont pouvoir lui faire une petite distraction, lui envoyer beaucoup de ballons.
Et l'enfant va pouvoir se carapater.
Voilà. Enfin, en tout cas, ça reprend des principes qu'on a déjà vus, mais la réalisation.
Enfin, je sais pas, parce que là, franchement, c'est, pour les tout petits, c'est assez original.
Ça fonctionne très, très bien. Et vraiment, c'est un plaisir. Et le deuxième album que je voulais vous présenter, c'est aussi illustré par Ella Charbon. Cette fois-ci, c'est Gwendoline Resson qui est au texte. Et c'est un petit livre publié dans la collection Nathan, enfin, chez les éditions Nathan, qui est très, très simple, en fait, qui va parler. Ça s'appelle Un livre qui claque. Donc, c'est sur les sons. Et c'est sur, en fait, en gros, quand on referme le livre très vite, on a une page de gauche, on a un dessin. Sur la page de droite, on a autre chose. Par exemple, sur la page de gauche, on a un marteau. Sur la page de droite, on a une pointe. Et paf!
Voilà.
Tac, et on plante la pointe.
Voilà.
Quand je referme violemment.
Il faut le rouvrir à chaque fois quand même.
Bah oui, voilà.
C'est physique.
Si par exemple on a une hache à gauche et une bûche à droite, et ch'tac.
Et ch'tac.
Et parce que le son change.
Ah oui.
Voilà. Si on a un beau pied d'une demoiselle en sandales à gauche et une belle crotte.
Oh là, c'est dégoûtant.
Ah, une belle crotte. Ça fait splurch.
Ah, voilà.
Donc il y a le jeu vraiment de fermer le livre autour de la page qui fait que l'objet de gauche va venir sur l'objet de droite. Et ça fait donc tous les sons qu'on va entendre. Donc c'est très, très ludique pour les tout-petits. Les tout-petits adorent. Ça m'avait évidemment fait penser au livre des bruits de Soledad Bravi, dans une autre formule. Hein. La formule n'est pas du tout la même.
Fait penser. Alexander aussi, un très vieux livre sur la peur où l'enfant est enfermé derrière
la
grille.
Ou à la fin, on ferme la grille.
Ouais, voilà. Ça.
Donc tous ces petits livres comme ça qui sont très malins, qui plairont évidemment aux tout-petits. Donc, et comme il y avait deux fois Ella Charbon, j'ai envie de présenter Ella Charbon. Donc voilà. Allez, on passe maintenant aux albums pour les un petit peu plus grands. Et je crois que vous nous aviez envie de nous parler de Grand-mère.
Eh bien oui, Grand-mère, je l'ai découvert il y a peu de temps. D'Éléonore Douspi, Douspi. Chez Albin Michel, la collection Trapèze, hein, qui sort toujours un petit peu du lot, voilà.
Et même si une grande partie des éditeurs sont partis à la partie.
Oui, partis à la partie.
Oui. L'éditrice de Trapèze est partie à la partie, mais il y a une nouvelle éditrice et qui va faire un très très beau travail.
Là c'est, je ne sais pas, il est sorti l'année dernière, même cette année dernière peut-être. On est sur un album pas très grand. Quand on l'ouvre, on a des cubes, il y a des cubes partout. Et il y a une grand-mère qui est désemparée, assise devant ses cubes. Elle ne savait plus très bien, personne ne savait à sa place, tout le monde cherchait, mais la tâche était immense. Les enfants surtout voulaient savoir. Sur les cubes, on voit des paysages, on voit des images, on voit des poissons, on voit une mobilette, on voit des choses du quotidien aussi. Leurs questions aux enfants restaient sans réponse. Les souvenirs semblaient s'être évaporés, les fragments dispersés, si loin que personne ne pouvait les rattraper. Sa mémoire n'était plus que paysage morcelé. Pourtant, à un moment, il va y avoir des mots qui vont se mettre en place en face de, enfin, grâce à ces cubes qui bougent. Essence, odeur, eucalyptus, brûlé, colline, tapissé, café, thé, manioc, lumière, diffuse, eau, émeraude. Et là, le lac. La grand-mère se rappelle du lac. Et grâce à juste ce mot-là et à toutes ces odeurs, toutes ces choses sensitives qui vont activer sa mémoire, elle va se rappeler qu'une fois, elle a désobéi à son mari qui ne voulait pas qu'elle prenne sa pirogue. Et elle a pris la pirogue, elle est partie sur le lac seule. Et elle a raconté cette histoire aux enfants qui l'ont... Le lendemain, elle l'avait oublié l'histoire, mais ils ont gardé le cube avec le lac et la pirogue dessus. Et ce souvenir, ils le garderont toute leur vie, ils vont le ranger. Et la particularité de ce livre, c'est qu'il y a des pop-up très légers à l'intérieur, cubiques pour la plupart, très géométriques, où ces souvenirs, quand on ouvre les deux pages, semblent s'envoler comme ça dans les nuages. Et où c'est échelonné comme ça, enfin c'est vraiment, ça peut être des nuages aussi eux-mêmes, c'est magnifique, enfin c'est vraiment très très beau sur les pensées, les souvenirs qui s'envolent, qui se dispersent, qui sont comme de la fumée, mais quand même malgré tout, grâce à nos sens et même des sens très, pour une personne très âgée, on va faire du lien, on va tisser du lien et on va se rappeler quelque chose et elle pourra transmettre quelque chose à ses enfants et petits-enfants. C'est magnifique.
C'est très délicat.
Très, hein, très bon.
C'est le pop-up, effectivement, c'est pas une représentation.
Ah non, c'est pas... Voilà. c'est vraiment une très grande délicatesse, tout à fait. C'est très subtil et très, très beau dessin. Très belle mise en scène du texte aussi, je trouve.
Éléonore Douspice, on l'avait découvert avec... Moi, c'était Sans orage ni nuage qui m'avait vraiment beaucoup plu. Ça pleuvait à la maison, à l'intérieur d'une maison, en fait, une petite fille qui ne comprenait pas. Et c'était très, très poétique. Elle avait fait aussi La maison carrée des Cubidules, qu'on avait sélectionné pour le prix Bulgom.
Oui.
Et voilà, sorte d'objet un peu non identifié.
C'est ça.
Parce que c'était une bande dessinée, un album. Voilà. Enfin, elle aime bien les objets qui interrogent le lecteur, en tout cas, qui
ne
sont pas dans la norme.
Tout
et là, je trouve que pour un pop-up, c'est pareil, on n'est pas vraiment dans la norme.
Ah non, non, le pop-up, je dirais qu'il est presque. Enfin, c'est pas qu'il est secondaire, mais c'est du texte, le pop-up aussi. Ça fait partie de la poésie, quoi.
Ça correspond bien à la collection Trapèze de Chalva Michel, qui nous surprend livre après livre. Vous aviez également un petit creux.
Ah oui.
Vous n'avez pas mangé
Si, j'ai mangé. D'accord. Mais vous savez, monsieur Simon, que nous avons tous ici, alors c'est difficile à la radio, mais sous le nez, un petit creux. Tout le monde peut le toucher, là, comme ça, il y a un petit creux. Et savez-vous d'où il provient? Eh bien, ce livre magnifique, nous donne la réponse. Donc, c'est Le Petit Creux de Pierre Delis. On dit Delis?
Delis.
Delis, pardon. Et Pierre-Emmanuel Liette. On est chez Didier. Et... il a été formé, le petit creux, dans le ventre, monsieur Simon, de votre mère. J'avoue, ce qui m'a attiré en premier dans ce livre, ce sont les couleurs, hein, comme la lumière colorée. Et moi, comme un gros papillon, je suis venue me coller à ces lumières extraordinaires. Elles sont vraiment fascinantes et très attrayantes. Donc, elles sont un chouïa kitsch, un chouïa, mais j'aime bien le kitsch sans doute. Tellement fascinantes, et là j'ai rencontré ce bébé qui connaît toutes les histoires, toutes les chansons, tous les secrets. Il sait même tout ce qui s'est passé avant, comme il devine tout ce qui se passera après. Tout ça, ça fait beaucoup pour un bébé, sauf que... Et là, j'ai assisté à un événement extraordinaire. Une chose qui arrive au moment de la naissance, à tous les bébés, il paraît. Il y a un petit bonhomme qui vit à côté de près... Enfin, qui vit tout près de tous les bébés, dans le ventre de la maman, et qui les accompagne de leur évolution dans les ventres. Ce petit bonhomme si bienveillant va venir poser un doigt sous le nez du bébé, sur ses lèvres, et va lui dire « Chut, bébé, laisse-toi aller, c'est le moment d'en profiter. Et surtout, prends ton temps. » À la sortie de tous les ventres de tous les mamans du monde, quand ils se retrouvent dehors, tout ébloui. Tous les bébés ont l'air d'être le plus vieux pépé ou la plus vieille mémé du monde. Ils savent tellement de choses. Et parce que c'est plus fort que tout. Chaque bébé à peine arrivé veut quand même parler. Il ouvre la bouche, il aspire d'un coup d'air et rien ne vient. Juste un « waaah ». Mais que s'est-il passé? C'est le petit bonhomme qui a tout emmené avec lui. Il a emporté tout ce que le bébé savait et il est allé se nicher dans son cœur. Rien n'a disparu, tout est bien caché, pour que le bébé se retrouve comme une belle page blanche où tout est possible. Voilà, ça m'a touchée énormément et ça vient en plus alimenter mes réflexions sur les questions que je me pose, sur tout le savoir d'un bébé.
Ah mais voilà. Super, moi j'ai adoré ce texte effectivement aussi. Pierre Delis, c'est lui qui avait signé des grands classiques chez Didier Jeunesse, hein, Le Petit Bonhomme des Bois,
oui.
Les Deux Grenouilles à Grande Bouche, et puis plus récemment Pétoche le Poussin,
oui,
qui nous avait fait mourir de
Poussin,
rire, voilà, avec la fin qui était
ouais,
claque.
Ouais,
voilà.
Ouais.
Et là, il ouvre une porte plus poétique en fait.
C'est beau.
Et c'est vrai que je trouve qu'en plus les illustrations de Pierre-Emmanuel Liette enrichissent ça, donnent vraiment une dimension à un texte qui est déjà poétique. C'est un très très bel.
Ouais, ouais.
Je ne saurais que aller dans votre sens. Ben moi aussi, je vais vous présenter un album. Cet album, c'est un album coup de cœur, vraiment, qui est l'œuvre d'une autrice assez rare. Elle a fait que 5 albums depuis quelques années, qui s'appelle Marine Rivoal. Et cet album, il s'appelle Magma. Eh bien, vous savez quoi, Véro ?
Je ne sais pas encore.
Eh bien, Marine Rivoal, je l'ai rencontrée.
C'est vrai ?
Et je l'ai interviewée.
Non ?
Si. Alors, je vais laisser ma parole à moi, qui interview Marine Rivoal, et on écoute ça.
Marine Rivoal, bonjour.
Salut.
Vous êtes là pour nous présenter votre 5e album au Werg. Qui s'appelle Magma. Magma, c'est un peu une boule de feu, un petit peu endormie, et qui va se réveiller et se promener à travers le monde. Est-ce que vous pouvez nous raconter voilà, pourquoi vous avez fait cet album, en fait ?
C'est parti un peu d'une blague, parce que je trouvais que architectonique, c'était drôle. Et j'ai toujours aimé les volcans. Et du coup, c'est comme ça qu'est née cette espèce d'asticot. C'est une boule de feu, c'est de la lave, en fait, qui va refaçonner le monde, qui va voyager dans le temps, à une échelle très rapide pour lui. Mais...
Oui, parce qu'il y a quand même des mammouths jusqu'à...
Oui.
Je l'ai bien vu, c'est bien un mammouth
ouais,
hein, qui est présent. Oui,
il y a des mammouths.
Forcément, on est obligé de s'arrêter sur votre technique, puisqu'à chaque fois, dans tous vos albums, en fait, j'ai l'impression que vous utilisez une technique différente. Dans chaque album, c'est vraiment ça.
Oui, je suis un peu schizophrène. Donc cette fois-ci, j'ai fait du carborundum. Le lien, on a l'impression que chaque album est très différent. Le lien, c'est quand même l'impression. J'utilise que des techniques d'impression de gravure. Et cette fois-ci, j'ai fait une espèce de croûtasse. C'est vraiment une technique pour faire de la
croûte. C'est le nom, ça, c'est le nom technique,
non,
la croûtasse.
C'est le carborundum et de la collagraphie. Donc le carborundum, c'est un mélange de poudre de métal avec un liant qui va durcir, qu'on applique sur une plaque et qu'on imprime comme de la taille douce. Et du coup, ça fait une espèce de gaufrage, une image en gaufrage, mais très abrasive, quoi.
Qui donne la matière, en fait. De...
Voilà.
Et ça, évidemment, c'est pas... vous utilisez d'autres techniques aussi dans l'album. C'est
oui.
Ce qui fait un peu la force, je trouve. Enfin, c'est un album pour les tout petits,
oui.
Enfin, pour les plus jeunes. Le texte, en tout cas, s'adresse vraiment aux plus jeunes. Mais dans la technique d'illustration, vous avez vraiment un travail très riche avec plusieurs techniques, parce qu'il n'y a pas que le carborundum.
Oui, j'ai fait le premier album, par exemple, Les Trois Petits Pois, c'était de l'eau forte. C'est une technique de gravure sur métal. C'est très long, très fastidieux, et c'est réservé normalement à un public adulte, en fait. Mais j'aime bien...
Votre particularité, c'est de vous adresser quand même plus souvent pour les plus jeunes.
Je m'adresse aux plus jeunes, mais avec des techniques et des images exigeantes, comme si je m'adressais à un public adulte.
Justement, quand on parle de l'histoire de ce magma, on voit donc c'est un élément de la nature. Cet élément de la nature, il est d'abord assoupi, puis il va se réveiller. Il est curieux, il y a ce côté justement un petit asticot qui découvre le monde. Et puis, quelque chose va basculer, il se met en colère. Et c'est là où on a... C'est pas un message, mais en tout cas, attention à respecter en fait ce qui nous entoure, puisque cette colère, elle peut être aussi destructrice.
Oui, voilà, en fait, la Terre ignore ce qui se passe à sa surface, et puis les hommes ignorent aussi ce qui se passe sous leurs pieds. Et là, c'est un petit peu la rencontre des deux, d'un personnage hyper naïf qui vient de naître, et qui est vraiment comme un enfant qui façonne ce qu'il a, qui joue avec des pâtés de sable, quoi.
On a vraiment ce côté enfantin, hein, parce qu'il est au début très doux, et puis... très colérique,
oui.
Donc ce personnage, il peut vraiment, enfin les enfants vont pouvoir s'identifier un petit peu à lui.
Oui, et ils pourront aussi le suivre avec le doigt, parce qu'il y a plein de rapports de forme, il joue avec son corps, enfin il est vraiment dans le jeu continuellement, oui, on peut s'identifier, enfin j'imagine qu'on peut s'identifier à lui.
Et puis avec ce travail de la couleur, le orange qui illumine l'album vraiment.
Il y a un fort contraste. J'aime bien jouer avec des contrastes. Je m'intéresse beaucoup au noir. Et du coup, il y a juste une couleur qui vient contraster ces rapports de noir. Quoi. Comme ça, on le voit tout de suite, même les plus petits. On peut vraiment fixer son regard ou même essayer de l'attraper facilement.
Et puis pour finir un peu avec cet album, il y a aussi cette fin qui est ouverte. On pense qu'il va sans doute se réendormir ou en tout cas...
Ou se réveiller.
Ou se réveiller, voilà, tout est possible.
Il y a peut-être une catastrophe. La fin est ouverte, mais les albums sont généralement ouverts. C'est pas didactique, je donne pas du tout mon avis.
Il y a pas de message un peu...
Non, mais c'est une base pour une réflexion avec le lecteur adulte après. Quoi.
Ben, merci beaucoup Marine pour cet entretien. Merci. Et puis je vous invite vraiment à découvrir cet album magnifique qui a été publié au Royal.
Merci.
Allez, on retourne au direct. Il est beau cet album.
Oui, il est beau.
Il est magnifique. Et c'est vrai que là, quand j'en parlais avec Marine, on n'a pas les images, mais allez voir vraiment, vous allez voir le travail de gravure. Alors, j'ai même pas retenu le
ça fait magma, ça. Hein.
Ouais. Si vous fouillez, en fait, sur Internet, vous vous retrouvez des vidéos où on est à l'intérieur de l'atelier de Marine Rivoal, et ça vaut vraiment le coup, parce que on en a pas mal parlé off, là c'était une interview officielle, mais de ses techniques, de son travail, et en fait elle est tout le temps en train de se remettre en question, donc son atelier en fait c'est vraiment un atelier de gravure mais avec toutes les techniques possibles, et chaque album elle réfléchit à des nouvelles techniques pour pouvoir le faire, enfin c'est assez bluffant et le reportage le montre très bien.
Elle a fait le texte aussi.
Elle a fait tout dans cet album là et c'est vrai que c'est un album qui est très très chouette, qui est vraiment accessible pour les plus jeunes parce que le texte est assez court.
Oui, puis comme elle dit, les contrastes ça fonctionne super bien.
Voilà, et c'est vraiment très...
Et on se brûle pas
en plus. Voilà. Allez, quand on parle de beauté, de choses vraiment jolies.
Mais finalement, c'est vrai qu'on a des belles choses quand même.
Oui, tout à fait. Vous brûlez d'envie. Oui. Là,
d'Isidore D.
Vous parlez d'Isidore D.
Couturier des fées de Frédéric Clément. Ça fait longtemps que je voulais parler de Frédéric Clément, mais il m'intimidait. Je n'osais pas. Mais celui-là, je suis complètement rentrée dedans. Mais complètement. Et on est chez Saltimbanque, petite maison d'édition.
Grosse maison d'édition, pardon.
Oh, j'ai pas les mêmes... voilà. Isidore D, c'est un couturier. Il habite l'île Madame, en Charente-Maritime, ça existe, et reçoit pour son 15e anniversaire un joli coquillage. Une précieuse coquille ovale fermée d'une serrure d'argent sur un charmant nécessaire à couture avec, à l'intérieur, posé sur du velours, un dé, une paire de minuscules ciseaux et un étui à aiguille. Glissé dans le dé, un message rouloté. Qu'il déroulotte. J'ai pas pu m'empêcher de garder ce terme. Ce sont les arrières. Enfin bon, bref. Petite fille des parcs, hein, qui étaient les premières fées filandières, celles qui donnaient la vie, qui la tissaient et qui coupaient le fil pour la mort. Donc elles vont lui passer commande de robes pour le petit peuple des fées. Trop affairé, le petit peuple des fées, depuis que la terre est terre, que le ciel est ciel, pour s'habiller avec élégance et originalité. Donc comme les fées sont très très petites, hein, c'est vraiment une autre échelle, hein, tout petit, Isidore va pouvoir regarder par les anneaux de ses ciseaux pour les apercevoir. Et vont défiler les commandes de grandes fées célèbres comme Titania, Mélusine, Viviane, la fée des lilas de Podane, Lorelai, Morgane. À chaque fois, il y a un petit encart qui nous présente la fée. En plus, on apprend plein de choses. Et comme dans le conte de Podane, les commandes vont être exigeantes, voire impossibles. Mais Isidore va parcourir le monde. Il rencontre un réseau universel et intemporel de petites bêtes, araignées, papillons, qui vont lui fournir tous les matériaux nécessaires à sa créativité et à sa folie. Résultat, des robes sublimes, fabuleuses, autant de spectacles qui vous laisseront sans voix à travers les anneaux des petits ciseaux de couture. Dans la lunette de mes ciseaux, je vois, juste un exemple, Viviane, vêtue d'un seul fil de soie et d'une mésange bleue. L'oiseau du bout du bec s'apprête à tirer le fil. La lumière s'éteint et déclic. La robe se déploie en un écran géant de cinémascope. Stop, silence. Pendant que lentement s'avance et tourne, la dame au milieu du lac passe et passe sur la soie de sa robe, la scène la plus déchirante de tous les contes de fées. Imaginez le drame, imaginez la dame. Sous une pluie de larmes, de perles et de merle blanc, Viviane charme Merlin l'enchanteur qui se laisse enchanter puis emmurée à jamais dans une prison d'air et d'aubépine. Alors j'ai voulu vous donner ce petit extrait pour vous donner le ton des textes et la force poétique des textes de Frédéric Clément qui est vraiment en écho à son talent d'illustrateur. Et je précise qu'Isidore est rémunéré par des millimètres de fil du temps. Donc 10 millimètres de fil, c'est 10 ans de vie d'homme. C'est pas mal, hein.
Bah oui, du coup,
c'est pas mal, moi, je trouve.
Il a pu être tout jeune.
Voilà. Donc c'est un catalogue de dentelles, de rêves, de poésie. Et la dentelle se situe au niveau du texte qui, tout en racontant des histoires magnifiques, nous invite à danser avec les mots et les images dans un style envoûtant. Comme si les travaux d'écriture et d'illustration étaient comparables à ceux des couturiers et de toute cette nature qui tisse inlassablement de la vie. À l'instar d'Isidore, je n'ai qu'une envie, parcourir le monde à la recherche de fils et de matières pour me laisser aller à la création. Merci Monsieur Clément.
Bien, merci Madame Véran. Vous nous avez bien donné envie. Et ça fait plaisir de revoir Frédéric Clément, qu'on aime depuis des années.
Donc Saltamanque, c'est une grande maison d'édition. Alors, excusez-moi, monsieur Saltamanque.
Oui, c'est une maison importante.
Importante.
Moi aussi, j'ai un coup de cœur, parce qu'il n'y a pas de raison. Alors, ça mérite un petit générique, parce que je vais faire la lecture en entier.
Oui, c'est ça.
Oh yeah.
Alex Cousseau et Anis Boutin. Ma maison est au cœur de la forêt, sous d'épais feuillages, dans l'ombre des arbres, entourée de ronces. Ma maison est beaucoup trop grande pour une fille comme moi. Je m'y ennuie parfois. Un jour, mon ami la chauve-souris me dit « Je connais des cousins voyageurs qui cherchent un endroit où vivre. Ils viennent de très loin. Ils sont de bonne compagnie. Pourquoi ne pas les accueillir chez toi ?» Pourquoi pas? Je les reçois le jour suivant. Ils sont trois. Hauts, costauds. On dirait des rocs, des rochers, des montagnes. On les distingue à peine l'un de l'autre. Seul change l'épaisseur de poils qui leur recouvre les yeux. Et voici comment ils se présentent, les quatre frères Zli. Mais pourquoi quatre? Je demande. Vous n'êtes que trois. Oui, répond le premier en s'installant à table. Non, marmonne le deuxième, la bouche pleine. Peut-être parce qu'on mange comme quatre, dit le troisième en vidant son assiette. En secret, je leur donne à chacun un prénom. Oui, non et peut-être. Oui, non et peut-être sont charmants avec moi. Ils reprennent volontiers du dessert, me complimentent pour mes talents de cuisinière, me remercient en faisant des courbettes, avant de me raconter leur histoire au coin du feu. On les a chassés de chez eux. Ils ont marché longtemps sans savoir où aller. Ils ont traversé des montagnes, dormis sous une tempête de neige. Ils ont eu faim, ils ont eu peur. Plusieurs fois, ils ont perdu courage. Mais il y avait aussi des moments amusants. La fois où Oui a réussi à ouvrir un parapluie et s'est coincé l'oreille dedans. La fois où Non a refusé de monter sur une barque, la croyant trop fragile pour supporter son poids, et qu'il a suivi les autres à la nage, un nénuphar sur la tête. La fois où Peut-être n'arrêtait pas de crier « Sûrement, sûrement !» après avoir avalé des champignons bleus. Les frères Zli me font rire. Quand ils lavent la vaisselle, ils jonglent avec les assiettes. Ils grimpent sur la table en parfait acrobate. Ils sont aussi un peu clowns. Ils gesticulent dans tous les sens. Ils inventent des grimaces. Ils improvisent des pas de danse. J'attrape chaud avec eux. Je n'avais pas ri autant depuis longtemps. Quand ils ont fini de faire les pitres, les frères Zli me demandent la permission d'ouvrir les fenêtres. Aussitôt, les ronces et les racines se glissent dans la maison. La lune s'invite en haut de l'escalier. Mon ami la chauve-souris nous rejoint à la tombée du jour. « Ta maison est mieux comme ça, me fait-elle remarquer. Tu ne trouves pas ?»« Oui, non, peut-être. » Quand trois ours ronflent comme quatre, je préfère me cacher sous la couette. Au petit matin, j'entends un bruit de train sous mon lit. J'ouvre les yeux. La locomotive accélère. Elle entraîne tous les wagons du parquet au plafond. « Mon train électrique, je m'écrie, vous avez fouillé dans mes affaires au grenier ?»« Oui, » répond Oui en souriant. « Non, en grognant en faisant couler l'eau du bain. » Peut-être qu'on pourrait faire des crêpes, propose Peut-être en cuisine. Pour fêter leur arrivée, les frères Z organisent un goûter géant. Des piles de crêpes, des tonnes de miel et des litres de lait. Ils envoient des invitations partout dans la forêt, mais personne ne vient. Personne, sauf mon ami la chauve-souris. Peut-être qu'il n'aime pas les crêpes, suppose peut-être. Oui, approuve oui, ni le miel. Non, ronchonne non, c'est nous qui n'aiment pas. Je ne sais plus que penser. Si mes voisins n'aiment pas les frères Zli, ça veut dire quoi? Est-ce que je dois me méfier d'eux, parce qu'ils viennent d'ailleurs? Est-ce que je dois les mettre à la porte? Pourtant, depuis qu'ils sont ici, la maison revit. La bouilloire chante du matin jusqu'au soir, mon salon ressemble à une clairière où se seraient donné rendez-vous le soleil et la lune. Avec mon ami la chauve-souris, on a envie de comprendre, alors on va voir nos voisins, un par un. Certains ne nous ouvrent même pas leurs portes. D'autres nous ont fait signe de déguerpir. Les plus bavards nous font savoir que les frères Zli sont dangereux, qu'ils n'ont rien à faire ici, que si ça continue, la forêt deviendra leur terrain de jeu, que tous les ours du monde envahiront notre belle forêt. Pendant ce temps, les frères Zli continuent de se rendre utiles. Ils enlèvent du toit les dernières neiges, installent des ruches, construisent des nichoirs aux mésanges, des abris aux hérissons. Ils réparent même la balançoire, mais personne ne vient s'y balancer. Les jours passent, les nichoirs restent vides, la balançoire ne plaît qu'aux araignées. Personne, sinon mon ami la chauve-souris, ne vient plus jamais nous rendre visite. Jusqu'à un matin de printemps, képi vissé sur le crâne, sourcils froncés, un gendarme frappe à notre porte. « Oui, l'accueil, oui. Vous venez pour la balançoire ?»« Je viens parce que les voisins se plaignent, explique le gendarme. Vous avez une autorisation pour installer des ruches dans le jardin ?»« Non, répond non. Peut-être que si, rétorque peut-être. Il faudrait demander à Bienvenue. »« Bienvenue ? S'étonne le gendarme. La fille qui habite ici s'appelle Bienvenue ?» Oui, répond oui. Vous ne savez pas lire, c'est marqué sous vos pieds. À table, je crie depuis la cuisine, les gaufres sont prêtes. Les frères Zli obéissent tout de suite, mais pas le gendarme, qui repart en annonçant qu'il reviendra demain pour détruire les ruches. Tant pis pour lui, demain les gaufres seront froides. La nuit suivante, mon ami la chauve-souris me réveille affolé. Ta maison brûle ! Les frères Zli sont déjà levés. Ils vont et viennent à la rivière avec des seaux pour éteindre les flammes. Peut-être que le gaufrier a trop chauffé, suppose peut-être. Oui, approuve oui. Le feu a dû démarrer dans la cuisine. Non, soupire non, en ramassant des allumettes sous une fenêtre, ce sont ceux qui ne nous aiment pas qui ont déclenché l'incendie. Le lendemain matin, le feu est éteint. Mais la maison n'a plus de toit. Une partie des étagères a brûlé, ça sent le roussi. Toute la journée, mon ami la chauve-souris reste à mes côtés pour tenter de me consoler. Les frères Zli sont désolés. Ils pensent que tout est de leur faute, que les voisins ne voudront jamais d'eux. Mieux vaut partir, finir par proposer peut-être. Oui, confirme oui. On va t'aider à réparer les dégâts et ensuite on disparaîtra. Oui, répète non. Et en entendant non dire oui, les larmes montent aux yeux. Le soir même, au clair de lune, je soulève un baluchon avec mes affaires les plus précieuses. Mon ami la chauve-souris se perche sur mon épaule. Les frères Zli reprennent la route et je les accompagne. Je les suis sans un regard en arrière, les yeux secs, sans dire au revoir à personne. Cette forêt est sombre, cette forêt est triste. Et devant nous, le ciel s'illumine de 1000 étoiles. Quelque part sur cette terre, il existe sûrement un endroit où les gens voudront bien accueillir 3 ours, une chauve-souris et une fille comme moi, non? Oui, peut-être. J'espère bien. C'était Les Frères Zli, écrit par Alex Rousseau, illustré par Anise Boutin, publié aux éditions des Fourmis Rouges. On écoute un petit peu de musique et on en reparle après.
Casquette de rigueur, basket à toute heure. Pour passer du bon temps, vas-y branche tes écouteurs. Bouge de haut en bas, oui, désarticule-toi. Faut pas te prendre la tête, non, allez remets-toi.
Car le hip-hop c'est une éthique, la seule arme, le stylo pic. Le hip-hop c'est une époque où on faisait gonfler les Reebok. Le hip-hop c'est le déclic, c'est de la musique poétique. 3, 2, 1, chantez. Si tu bouges la tête, c'est que t'es hip. Si tu retournes ta casquette, c'est que t'es hip. Si t'es venu faire la fête, c'est que t'es hip. Si tu bouges la tête, c'est que t'es hip. Si tu retournes ta casquette, c'est que t'es hip. Si t'es venu faire la fête, c'est que t'es hip. Hip, hip.
Il Il est venu me délivrer, y'a plein de trucs qu'il m'a appris. Son jour de gloire est arrivé, allons enfants de la batterie. De la danse au graffiti, il y a de quoi se défouler. On est des rappeurs DMC, mais pas des jeunes déboussolés.
On est tous pareils, avec nos différences. Personne n'est parfait, c'est sûr, mais ça c'est une chance. Entrez dans la danse, suivez la mouvance. Avec les frères casquettes, t'inquiète, il faut que ça balance.
Si tu bouges la tête, c'est que t'es hip. Si tu retournes ta casquette, c'est que t'es hip. Si t'es venu faire la fête, c'est que t'es hip. Si tu bouges la tête, c'est que t'es hip. Si tu retournes ta casquette, c'est que t'es hip. Si t'es venu faire la fête, c'est que t'es hip. Hip, hip, hip.
Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, 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 branche. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, branche tes écouteurs.
T'es ici pour le show ou t'es venu faire une sieste? On n'entend pas grand chose, es-tu muet ou muette? C'est une block party, pas des mathématiques. Te faire sauter, crier, ça c'est notre tactique.
Il faut que le sol tremble et que le ciel gronde. On y va ensemble, oui, ça serait de la bombe. Compte un pour enclencher, est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, chantez.
Si tu bouges la tête, c'est que t'es hip. Si tu retournes ta casquette, c'est que t'es hip. Si t'es venu faire la fête, c'est que t'es hip. Si tu bouges la tête, c'est que t'es hip. Si tu retournes ta casquette, c'est que t'es hip. Si t'es venu faire la fête, c'est que t'es hip.
Et c'était donc le titre Hip-Hop des Frères Casquette. Là, on est au cœur du projet quand même. C'était tiré de leur premier album l'année scolaire. Allez, on va parler... Bah, on reparle peut-être un petit peu quand même des Frères Lee, hein, d'Alex Cousseau et d'Annelise Boutin, publié au Fourmis Rouge. C'est l'un de mes gros coups de cœur du moment. Forcément, parce que l'actualité trouve un écho. Enfin, ce livre trouve un écho vraiment avec l'actualité, mais pas que, hein, parce que c'est...
C'est le texte d'Alex Cousseau.
Le texte d'Alex Cousseau est absolument superbe. Et puis, vous n'avez pas les images sous les yeux d'Annelise Boutin, mais vraiment, elle a fait un travail remarquable, avec une densité d'images, avec des personnages qui sont... très attachant là, ses ours, la petite fille. Enfin, on connaissait pas forcément son travail dans cet esprit-là, mais ça confirme une grande illustratrice. Donc c'est vraiment le mélange des deux qui fait un objet qui est absolument magnifique. On sait que les éditions des Fourmis Rouges, de toute façon, sont très fortes pour ça, pour faire des associations d'auteurs qui fonctionnent bien. Et puis bah encore là, encore avec un style différent, ils allaient encore à nous surprendre. Voilà, c'est un très très bel album qu'il faut partager. Surtout en ce moment,
oui.
Vraiment très très bien.
Oui,
hein,
oui.
Hein. Puis, il y a des élections bientôt, et puis là c'est pas mal les idées. Qui... Voilà. Enfin, bon. En tout cas, voilà, lisez les Frères Lee, lisez-le à voix haute, partagez-le. Mais c'est un album absolument essentiel. Allez, on va parler vite fait de Doc. On va parler d'animaux. On va parler de manière un petit peu différente. D'abord, moi je voulais juste signifier un très beau documentaire qui s'appelle Vivre, un nouveau regard sur les animaux. C'est un livre écrit par Virginie Aladjidi et Caroline Pellissier, illustré par Emmanuel Choucriel. On connaît ce trio qui a déjà fait beaucoup de livres chez Albin Michel. Et là, il nous offre une espèce d'abécédaire, enfin pas d'abécédaire, même de bestiaire en fait, mais avec une entrée qui est un petit peu différente puisque leurs chapitres, ce sont à chaque fois une thématique. C'est séduire, c'est dormir, c'est se déplacer, c'est se soigner. Et on va voir à chaque fois comment plusieurs types d'animaux justement se soignent, se déplacent, dorment. Et c'est ce comparatif en fait entre finalement les animaux, puis l'humain est toujours présent aussi, qui est très intéressant et qui donne une approche un petit peu nouvelle. Voilà, donc c'est très très beau. Puis on retrouve le dessin absolument génial d'Emmanuel Choucriel. Donc c'est vraiment un beau documentaire à découvrir. Et puis à côté de ça, on avait deux livres un peu foufou.
Ah bah foufou, oui, hein, carrément. Oui.
Moi, j'en ai un premier qui s'appelle « Les animaux qui existent peut-être » du professeur Olof. C'est un livre de Stéphane Nicolet publié, illustré par Jean-Baptiste Drouot. C'est très, très drôle.
Little Urban.
Voilà, chez Little Urban, exactement. On va découvrir, en fait, des animaux qui auraient pu exister.
Oui.
Qui existent presque, hein, mais non.
Mais non.
En fait, non. Ouais, donc, c'est des animaux inventés. Ils sont un peu loufoque. C'est des fois des animaux croisés entre deux animaux ou bien complètement inventés. Il y a le travail d'illustration de Jean-Baptiste Drouot qui est très très chouette. Moi, j'adore ce qu'il fait, notamment. Lisez tous ses albums aux 400 coups, nos amis québécois. C'est absolument très très drôle. Et puis il y a le texte de Stéphane Nicolet qui est savoureux. Enfin, si vous voulez un faux bestiaire, je vous conseille vraiment Ces animaux qui existent peut-être, du professeur Olof. Ça a l'air très scientifique et ça ne l'est pas. Et je crois que vous vouliez nous parler d'un livre
dans le même esprit, le Wawaso de Joël Guénoun chez Actes Sud. Donc, alors là, c'est dommage parce que c'est à la radio, ça va être compliqué, mais je vous conseille d'aller vraiment regarder ces illustrations. Donc, c'est un catalogue d'êtres imaginaires formés à partir de mots valises. Donc, ce sont des illusions d'optique parce que, par exemple, sur la première de couvre, on voit un wawaso, donc c'est un chien, on voit un chien là comme ça, et on s'aperçoit sur un deuxième regard qu'on voit une oie blanche qui forme le museau du chien. Donc c'est à chaque fois un duo d'animaux, ou pas seulement d'animaux.
C'est
pas un mélange, c'est que ça vient former une partie de l'animal. Un animal vient former une partie d'un animal plus grand.
Il y a un peu ce côté, vous savez, quand sur les réseaux, là, il y a des jeux un peu cons.
Les illusions d'optique.
Voilà, où on doit dire, vous voyez ça ?
Voilà, et puis donc ça veut dire que vous êtes... Donc il y a le mouchard qui biaule, il y a le cucreuil, il y a le pianours qui se régale avec la truite de Schubert, le hamstruche, l'oiseau rateur, enfin voilà, il y en a plein. Alors il n'y a pas que des animaux, puisqu'il y a la flire aussi, qui est une fleur sauvage qu'on trouve au début de l'hiver dans les clairières, au cœur des forêts de sapins. Une flire pousse et s'épanouit en une journée. Elle apparaît avec les premiers rayons du soleil. Ses pétales sont les pages d'un livre qu'elle lira entièrement en quelques jours. Donc là, voilà, je vous donne juste un petit ton de ces textes-là, qui sont aussi très savoureux. Et c'est un livre assez conséquent parce qu'il y en a, il y en a du monde dans le livre. Et vraiment, je vous le conseille.
Et en plus, vous pouvez, je crois, avoir du son dans... télécharger des petites, j'ai trouvé sur internet des extraits, donc doit exister.
Petites vidéos, oui, voilà, c'est tout ça. À fait.
On
tout
peut
à
retrouver
fait.
En fait, voilà. Ça doit être Joël Guénoun, je pense, qui raconte ça en fait.
Regardez le cucreuil, c'est un écureuil qui fait la crête.
C'est génial parce qu'effectivement, on voit le coq tout de suite, et puis après, on voit aussi l'écureuil qui arrive en fait. Donc il y a vraiment un jeu d'illusion optique qui est très bien.
Voilà,
c'est super. Bravo. Alors, on a parlé de choses qui faisaient du bien, qui étaient super joyeux, qui étaient géniaux.
Bon, maintenant, on va pleurer. Hein.
Non, voilà. En fait, il faut qu'on prenne le temps. On n'avait pas eu le temps d'en parler assez longuement la dernière fois, mais on avait été d'accord pour dire tous les quatre, parce
puis
que
je voulais le
quatre,
finir,
que ce livre était essentiel. Ce texte, c'est Les longueurs de Claire Castillon. C'est donc un livre publié chez Gallimard dans la collection Scripto. Et on sait que chez Gallimard, cette collection a un peu pris le... en gros, c'est beaucoup d'auteurs français, des textes souvent durs, un peu compliqués, ou en tout cas très forts, qui sont dans ce texte-là, dans cette collection-là, et celui-ci est vraiment, vraiment dans cet esprit-là. On connaît l'écriture de Claire Castillon, on sait comment elle a cette capacité de s'accaparer des thèmes difficiles et puis d'en faire une forme littéraire. Là, j'avoue que celui-ci... Il nous a bien plombé. En gros, Les longueurs, ça raconte l'histoire d'Alice. Alice est une jeune fille. On va la suivre à plus... Chaque chapitre, en fait, elle a un âge différent. Elle a 8 ans, je crois, au moment où elle est plus jeune. Après 10, et puis 12, et puis 15. Mais c'est pas forcément chronologique.
Ça revient en arrière. Il y a des allers-retours.
Mais on va suivre Alice tout au long. C'est la narratrice, mais à plusieurs âges. Et Alice, elle raconte son affection pour Monjo. Monjo, c'est son professeur d'escalade qui a une quarantaine d'années, en qui elle a toute confiance, avec qui elle prend beaucoup de plaisir à apprendre l'escalade. Et surtout, elle le considère réellement comme son premier amour. Elle est persuadée qu'il est amoureux de lui. Voilà. Lui la voit beaucoup plus comme une proie.
Exactement.
Ce roman, en fait, voilà, il va parler de ça. Il va parler de l'emprise, de la manipulation, de la pédophilie qui est évidemment présente. Par le regard en fait d'Alice, et c'est là où c'est très très fort, puisque on est dans le regard de l'enfant qui va grandir, ses sentiments qui vont évoluer, ce qu'elle pense être des sentiments, la façon dont cet homme a une emprise et la façon dont
elle ne veut pas s'en défaire non
plus. Elle ne peut pas.
Elle est prisonnière, oui.
C'est ça, en fait.
Et dès qu'il émet des signes de désamour, c'est le drame pour elle. Et c'est ça qui est terrible.
Et c'est ça qui est terrible. Je trouve qu'il y a quelques livres déjà qui abordaient ce sujet. On pense à la Porte de la Salle de Bain de Sandrine Beau, à Maman les petits bateaux de Claire Mazard, de manière plus ancienne.
Moi, je pense au Chatouille, les filles. Oui, les, le film aussi
ouais,
qui parlait.
Ou la pièce de théâtre, en fait. Ouais. Effectivement, on a eu déjà des textes autour de ça, mais je trouve que celui-ci a une force et une puissance.
Ouais, tout à fait.
Et puis, il renvoie une colère. Enfin, en tant que lecteur, en tout cas... Moi, j'ai une colère qui est montée au fur et à mesure du livre disant ben, où sont les adultes déjà autour d'elle et puis on
parce
a envie qu'elle...
Elle passe par des périodes où elle a besoin de parler, elle a besoin de se confier.
Elle ne trouve pas forcément les personnes.
Ça met du temps, hein. Ça met vraiment du temps et c'est terrible.
Et puis c'est aussi, je trouve, un livre qui décrit assez bien le fait qu'on peut aussi passer à côté. Et que c'est possible.
Exactement. Ouais.
Et que
le personnage de la mère, justement.
C'est compliqué, ce personnage-là. Hein. Puis le père qui est absent. Enfin voilà, il y a plein de sujets qui sont abordés. Et puis il y a l'écriture en fait de Claire Castillon, un rythme très sec. Ça va, c'est saccadé. Des phrases qui sont sèches. Et c'est vrai qu'il laisse pas du tout indifférente, mais pour ce texte, il fallait quelque chose comme ça.
On
n'est jamais dans le complaisant, on n'est jamais. Et puis les descriptions aussi, on n'est jamais dans l'obscène non plus,
ni dans
le voyeurisme.
Non. Pas du tout.
C'est pour ça que c'est un livre qu'on peut conseiller à plusieurs âges.
Oui.
Tout dépend de l'enfant et de la maturité de cet enfant qu'on a en face de soi ou de l'adolescent.
Oui.
Parce que naturellement, je dirais que c'est un livre qui s'adresse plutôt pour les 14-15 ans, mais je me dis, en fait, il n'y a rien qui
empêche
des enfants plus jeunes.
Ouais.
J'en parlais avec un ado, justement, où je lui posais la question, et qui me disait que ça pouvait être aussi utile pour un ami.
Exactement, ouais.
Pour être celui qui permet
qui
la libération de cette parole.
Oui, oui, tout à fait.
Et que finalement, c'est vrai qu'on pourrait le faire lire.
C'est indiqué sur la fin, il y a un petit laïus à la fin qui est très intéressant.
Oui, il y a une amie à elle, pédopsie, qui parle de ça, oui, tout à fait. Enfin voilà, c'est un texte, si vous ne l'avez pas encore vu, lu, découvert, il faut absolument le découvrir. C'est un livre majeur. Important, essentiel. Vous mettez le mot ce que vous voulez dessus. En tout cas, c'est vraiment un livre qu'il faut partager, qu'il faut mettre dans tous les CDI, dans toutes les bibliothèques. En tout cas, qui doit tomber dans les mains parce que ça fera forcément du bien à tout le monde. Voilà. Donc, ça s'appelle Les Longueurs de Claire Castillon. C'est publié dans la collection Scripto chez Gallimard. Et vous avez compris, nous vous le conseillons.
Ah oui, complètement.
Pour retomber un petit peu, vous nous parlez un petit peu de mythologie
Je vous parle de mythologie parce que je suis tombée dedans quand j'avais 11 ans. Je suis tombée dans l'Iliade, où c'est que de la guerre pourtant, hélas. Mais pas que, non. C'est des rivalités humaines avec des grandes histoires d'amour. Et j'étais fascinée. Et là, Michel Honecker, d'après Homère, a écrit Iliade sans le L chez Zonji, chez Mijad dans la collection Zonji. Et je viens de le redévorer. Pas de la même façon qu'Homère, évidemment. Là, les dieux sont beaucoup plus absents. C'est vraiment très humain, justement, comme récit. Mais il est magnifique et je vous le conseille fortement. Il est magnifique.
Et pour rester du côté des mythes, en fait,
Alors là, j'ai rencontré Médusa de Flora Boukri chez Gulfstream. Une collection, troisième numéro de l'autre côté du mythe, la collection. Et Médusa pleure éruallée, ma sœur chérie, mais quel monstre es-tu devenu ? Celui qu'on a fait de moi, j'imagine, répondit Médusa. On fait écho aux longueurs, puisque moi, j'ai pas le temps de vous raconter l'histoire de Médusa, qui est la méduse, vous allez la lire là, c'est une histoire comme vous l'avez jamais entendue, une histoire humaine, terrible et injuste, une histoire de petite fille, de femme, sacrifiée, d'homme dominant et destructeur. Jusqu'à la lecture de ce roman, j'associais la méduse à un monstre. À présent, elle est un peu comme ma sœur, avec en prime une immersion dans les profondeurs de l'océan, fabuleuse et vraisemblable. On s'y croirait, c'est magnifique.
Eh ben, ça donne envie.
Oui.
Je buvais vos paroles, vous voyez, telle une méduse, j'étais sous l'océan. Voilà. En tout cas, ça donne très, très envie. C'est le début d'une collection.
Alors, c'est pas une série du tout. Mais les deux autres, alors je crois qu'on avait Le Fil d'Ariane, mais c'est avec les noms grecs. Elle a gardé les noms grecs, ce qui donne toute la richesse. En plus, on est vraiment immergé dans la mythologie, mais terriblement vivante.
Et c'est toujours écrit par Flora Boukri. Bah super. Eh bien, ça tombe, on s'en sort bien. Il me reste quelques minutes pour vous parler de mon coup de cœur bande dessinée du mois. Et c'est pour aujourd'hui, j'ai choisi une bande dessinée pour les tout petits. Cette bande dessinée, elle s'appelle Gouttelette, le petit axolotl. Tu as vu les petites axolotes là ?
Il y a de l'Amérique du Sud.
C'est les petites bestioles là qui sont toutes un peu blanchâtres, presque transparentes. Voyez,
non, pas du tout. Là, c'est quoi ça?
Et ben, c'est des axolotes. Là.
C'est des vers.
Des petits animaux, en fait, tout rigolo. Et on va suivre, en fait, Gouttelette. Gouttelette, c'est un petit axolote. Alors, c'est une BD qui est écrite par Cathy O'Neill, publiée chez Bliss Comics. Et on est vraiment dans les premières bandes dessinées. C'est-à-dire qu'il y a des grosses cases de toutes carrées. Il y a 4-8 cases en fait par page et on va suivre Gouttelette en fait c'est chez les animaux c'est l'heure du festival des sports, tout le monde s'entraîne pour être le meilleur à faire du sauté, du lancer, de la course et compagnie, et Gouttelette elle est juste là pour ses amis et elle va les voir les uns après les autres et elle s'aperçoit que chacun a le stress de rater. Et donc, qu'ils ont besoin un petit peu d'encouragement. Et à chaque fois, elle va trouver les mots justes pour aider ses amis. Et quand le grand jour arrive, enfin, ils n'auront plus ce stress. Et finalement, l'idée, ce n'est pas forcément de gagner. L'idée, c'est vraiment d'être là, d'être avec tout le monde. De participer, tout à fait. En tout cas, c'est un très bel album. Surtout, on retrouve le dessin de Cathy O'Neill, qui est absolument génial. Ça, c'est une autrice néo-zélandaise qu'on avait découvert notamment par la série du Cercle du Garçon T, toujours chez Bliss Comics. Et cette série, elle est vraiment très, très belle. Alors, Bliss Comics, ce n'est pas un éditeur qui est très diffusé, donc il y a peu de gens qui le connaissent, mais vraiment, ça vaut le coup de découvrir cette autrice. Elle a quand même gagné le prix Eisner en 2018 pour cette série-là, la version jeunesse. Après, on l'a vu dans La Baie de Lucky Corn et puis dans Princesse. Voilà, c'est une autrice qu'il faut suivre. En tout cas, cette petite gouttelette, elle est vraiment trop mignonne et ça nous permet de finir avec un peu de plaisir et un peu de bonheur.
Ça existe vraiment, les axolotes ?
Oui, c'est un vrai animal. Vous regarderez.
D'accord, je regarderai.
Allez, on va se quitter en musique comme d'habitude avec les Frères Casquettes. Véronique, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On remercie évidemment Philippe à la régie. Et puis, nous, on se dit au mois prochain. On va faire plein de lectures. Comme ça, on aura plein de choses jolies montrer la semaine prochaine. Et puis, peut-être qu'on aura un invité.
Peut-être.
On verra.
Mais oui.
Si vous êtes sage.
Voilà.
Allez, on se quitte avec Le Monde à l'envers. Ce sont les Frères Casquettes. À très bientôt.
Au revoir.
Y'a rien qui est droit, tout va de travers. En haut, en bas, de gauche à droite, devant, derrière.
Y'a des chats qui courent après des chiens qui courent après leur maître.
Y'a des gens avec des chapeaux sur les pieds qui marchent sur la tête.
Des bébés de 2 mètres
et des adultes qui ont des couches.
Des gens qui parlent avec un bec
et des oiseaux qui ont des bouches.
Y'a des hommes qui portent des jupes et des femmes qui portent la moustache.
Des élèves qui éduquent, des professeurs qui jouent à cache-cache.
Tout le monde s'arrête au feu vert,
redémarre au feu rouge.
Y'a des poissons qui nagent en l'air et des statues qui bougent.
C'est le monde à l'envers, y'a plus d'endroit, y'a rien qui est droit. Travers, en haut, en bas, de gauche à droite, devant, derrière. C'est le monde à l'envers, y'a plus d'endroit, y'a rien qui est droit. Tout va de travers, en haut, en bas, de gauche à droite, devant, derrière.
À la télé, ils disent que les patrons vont augmenter les salaires
et que les propriétaires veulent à tout prix baisser les loyers.
Y'a cousin Bob qui a dit c'est l'heure d'aller se coucher à sa mère.
Y'a un surfeur qui a sauvé un requin qui allait se noyer.
Y'a des manifs de footballeurs qui se plaignent d'être trop payés.
Y'a plein de riches qui veulent devenir pauvres, ils ont jamais essayé.
Un groupe de rap vient de se créer avec Johnny et Aznavour.
Y'a La Fouine et Booba qui chantent ensemble des chansons d'amour. C'est le monde à l'envers, y'a plus d'endroit, y'a rien qui est droit. Tout va de travers, en haut, en bas, de gauche à droite, devant, derrière. C'est le monde à l'envers, y'a plus d'endroit, y'a rien qui est droit. Tout va de travers, en haut, en bas, de gauche à droite, devant, derrière.
Début le parfini, les chevins.
la paraphrase, mais comment je m'arrive, qui
qu'est-ce qui m'arrive, je commence mes phrases par la fin, je définis pas le début.
Roule là d'en fou un pour prendre me on verbe le sujet, le j'inverse.
J'inverse le sujet et le verbe, on me prend pour un fou dans la rue.
Dessert aux betteraves des et entrée en yaourt des manges.
Je mange des yaourts en entrée et des betteraves au dessert.
Mais c'est l'affaire, pris tout à veu, je car frère mon avec bas me jeu.
Je me bats avec mon fer car je veux à tout prix faire la vaisselle.
C'est le monde à l'envers, y'a plus d'endroit, y'a rien qui est droit, tout va de travers, en haut, en bas, de gauche à droite, devant, derrière. C'est le monde à l'envers, y'a plus d'endroit, y'a rien qui est droit, tout va de travers, en haut, en bas, de gauche à droite, devant, derrière. C'est le monde à l'envers, en haut, en bas, de gauche à droite, devant, derrière. C'est le monde à l'envers, en haut, en bas, de gauche à droite.